Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr.
Amis du café, amis de la police, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes en omnivision. C'est-à-dire que nous sommes en voie de bolorisation extrême. Tels des Bolloré alternatifs. Bolloré qui possède CNews, qui possède C8, qui possède Europe 1, qui possède le journal du dimanche. Eh bien, prends garde, Bolloré, car au poste dorénavant est diffusé en live sur auposte.fr, ça c'est le lieu central, où vous trouvez toutes nos vidéos, tous les replays en accès libre. Et pour les lives, vous avez Twitch, vous avez Peertube, vous avez YouTube, vous avez Facebook et vous avez Twitter. Car il n'est plus question de laisser un centimètre de terrain à Monsieur Bolloré. Je suis inquiet. Est-ce que vous m'entendez, chers amis? Est-ce que vous m'entendez? Le son est très bien. Super. Vous m'entendez. Super. Impeccable. Donc, Qu'est-ce qu'il fait, William? On l'attend, William. Voilà, tout est prêt. Voilà, dès qu'il arrive, il est au courant que je suis déjà en direct, si jamais il y a un souci. Alors, le néon ne marche pas ce matin, je ne sais pas pourquoi, le néon au-dessus de l'invité. Mais ce n'est pas grave. Ok. Alors, bonjour Pauline qui est dans les parages. Pauline qui est allée au salon du livre féministe ce week-end pour aller chercher des nouvelles invitées pour son émission Bonjour Colère, sa mensuelle féministe sur Au Poste. Si vous n'avez pas vu la première, ne la ratez pas, vous pouvez aller la revoir sur le site auposte.fr. On a cette semaine une semaine bien chargée, puisque demain matin à 7h06, nous serons en direct de Nanterre à la Contemporaine, la bibliothèque contemporaine, pour une magnifique exposition qui ferme ses portes dans quelques jours autour de l'engagement dans les années 70. Ça s'appelle Riposte. Attendez, je regarde. Non, j'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'il fabricose là? Donc demain matin, on sera en stream sauvage depuis la Contemporaine pour visiter cette exposition avec les deux commissaires d'exposition qui viendront, notamment Franck Véron, qui viendront nous expliquer quels sont ses tracts, quelles sont ses affiches, quels sont ses livres, quelles sont ses publications, quelles sont ses affiches subversives qu'ils exposent. C'est l'engagement post-68A, 70-74, c'est absolument formidable. Il y a plusieurs salles dans lesquelles on retrouve tout un tas de documents du début des années 70. Et on sera demain matin en direct, en stream sauvage. Mercredi, Richie Thibault, notre camarade de jeu, Richie Thibault, sera avec nous pour nous raconter à la fois ce qui lui est arrivé au Salon de l'Agriculture, et puis en deuxième partie, surtout, recevoir deux invités, deux porte-parole, l'un des lycéens, l'autre des étudiants, pour essayer de savoir ce que Macron fait à la jeunesse. C'est l'émission La Barricade de Richie Thibault, qui est une émission de gens de 20 ans. Parce que bon, on peut pas faire que du vieux punk. Hein. Donc voilà, Richie Thibault, là aussi, La Barricade, c'est la quatrième du nom, ce sera la quatrième du nom. Il vient tous les mois. Et puis jeudi, nous aurons notre dernier ciné-club avec les copains des Ciné-Mutins, où nous allons voir ensemble un film, les FTP Moy dans la Résistance, en présence du réalisateur Mourad Lafitte et de l'historienne communiste Annie Lacroix-Rie, qui seront tous les deux là pour débattre après le film avec le copain Olivier Azam des Mutins de Pongé, qui viendront nous éclairer sur les FTP Moy. C'était notre façon à nous de prévoir le coup par rapport à la panthéonisation de Missak Manoukian et de sa femme. Nous allons aborder toutes ces questions-là ensemble. Ce sera jeudi soir. Entrée libre. Si vous êtes sur Paris, venez. Ah, voilà, il est là, avec sa belle tignasse. Je suis en direct, tout va bien, William. Est-ce que je te fais un café ou pas ?
Oui, je veux bien.
Il veut bien. Alors attention, William, à partir de maintenant, nous sommes en direct. Ça va ?
Bien.
Bon, alors, café avec sucre ou sans sucre ? Voilà, il vient d'arriver. Il pose ses affaires au fond, tel un grand professionnel. Il pique des autocollants, tel un grand professionnel. Non, tu peux les prendre. Le but, c'est de t'installer ouais, ici. William qui vient pour son bouquin que j'ai terminé ce matin.
Ce matin
même, ouais. À l'arrache, mais j'ai tout lu. Le micro est là. Tu peux te mettre au milieu. Voilà. Alors, attends. Ouais, ça devrait être pas mal, là. Ça devrait être pas mal. Impeccable. C'est impeccable, même. Attends, je fais un dernier petit réglage.
Yes.
Je te fais le café.
Formidable. Je range mon col roulé pour que ce soit joli.
Vas-y, range ton col roulé. Le café est prêt.
Génial.
Voilà, maître. Voilà, maître.
Merci.
J'aime
merci.
Donner du maître aux avocats. N'oublie pas, alors que dans l'autre main, tu dois tenir le micro.
Yes.
T'as eu du mal à trouver ou...
Non. Bah, je suis un avocat dégourdi, tu as lu le livre. Hein.
Ah oui, j'ai bien vu. Je fais une petite présentation de ton livre et après on attaque.
D'accord.
Comme ça, tu peux boire ton café tranquillement. Alors, je t'explique, ici, ce sont les deux caméras qui te filment. Derrière, il y en a une qui me filme. Et celle-ci nous filme tous les deux, pour que tu connaisses le dispositif. Et ici, si tu veux jeter un œil, c'est le chat. Ce sont les gens qui nous regardent et qui réagissent en direct à ce que tu vas dire.
Ok, parfait.
C'est un peu le jury populaire, mais qui délibère en même temps que
instantanément.
Instantanément, le truc horrible.
D'accord. Le coup près.
Le coup près. Ta tignasse grise en bataille te distingue de bien de tes pairs, comme ta pugnacité et ta constance et ta mélancolie de l'engagement. Une mélancolie que tu qualifies de joyeuse. Depuis 40 ans, William Bourdon défend des militants et des lanceurs d'alerte, de Snowden à Al-Falchini, le scandale HSBC, de Pichon, flic repenti qui révéla l'existence de fichiers de police illégaux aux indigènes Raoni et Surui contre Bolsonaro. Ton mantra, écris-tu, réduire le violent et l'intranquille, résister à la déshumanisation de ton client. Tu as mené de haute main de grandes luttes, connu quelques déconvenues, quelques choix fâcheux, dis-tu, et tu poursuis une droiture venue de ta mère depuis 50 ans. On te voit devant la Cour pénale internationale en Afrique contre Areva, contre Total en Birmanie, et ce matin, au poste, pour ton livre de souvenirs sur le fil de la défense, le Cherche-Midi. Tu viens de plisser les yeux, qu'est-ce que ça signifie ? Que la présentation n'est pas bonne ? Qu'est-ce qui se passe, maître ?
Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure présentation, elle est absolument parfaite, elle est d'une justesse, non, vraiment impeccable.
Alors, est-ce que tu commences le passe-doble avec moi ? Tu parles à un moment donné de... Tu parles beaucoup des journalistes, je ne me considère pas comme journaliste, mais on va dire qu'on est dans un exercice un peu journalistique quand même. Tu parles beaucoup de tes liens aigre-doux avec des journalistes. Certains sont tes amis, d'autres non. Mais vers la fin, en fait, tu résumes, et je trouve ça très intéressant, tu résumes les relations avocat-journaliste à une danse, à du passe-doble.
Oui, mais en même temps, pas non plus trop singulariser ce lien, parce que finalement, il ressemble à une équation qui est celle de la vie. C'est-à-dire que le lien journaliste-avocat, c'est comment danser avec ce qu'on a envie de hisser au plus haut, c'est-à-dire la part de sincérité, de loyauté, de confiance,
ouais.
Avec le fait qu'il y a une dimension utilitaire de part et d'autre. C'est-à-dire, au fond... C'est une espèce de concentré de ce à quoi on est confronté dans la vie depuis depuis notre naissance, depuis qu'on apprend à jouer avec les mots et l'altérité, c'est-à-dire on est confronté à l'utilitarisme tout le temps. Et d'ailleurs, peut-être faut-il en profiter pour dire que l'état du monde pousse de plus en plus de gens à des logiques utilitaires et opportunistes. Parce que c'est l'invasion de ces logiques utilitaires et opportunistes qui participe, il y a bien l'autre raison, à une forme de résignation, de repli sur soi, de tout est permis, de chacun pour sa pomme, la fin justifie les moyens. Enfin, tous ces dictons qui envahissent un peu le subconscient collectif et où l'utilitarisme prend le pas sur la fraternité, la confiance, la loyauté. Et donc, le lien avec le journaliste, c'est un concentré de tout ça, pour le meilleur et pour le pire. Évidemment qu'il y a des très beaux liens que j'ai créés. Et puis, il y a des liens qui, de façon absolument irréductible, restent des liens de défiance, voire d'hostilité, et où je sais que la moindre naïveté de ma part sera un cadeau, voire un cadeau empoisonné fait à l'opportunisme. Oui.
Mais ce que j'apprécie dans ton livre, c'est que tu donnes aux journalistes le poids qu'ils ont, c'est-à-dire une responsabilité assez énorme du cynisme ambiant, ce cynisme que tu combats à longueur de page, et tu dis que les journalistes, ou en tout cas la machine médiatique, a sa responsabilité.
Encore pour le meilleur et pour le pire, les grandes affaires financières ou les grands dossiers n'auraient jamais émergé sans la pugnacité commune de mon cabinet, avec la pugnacité de journalistes d'investigation, même si les journalistes d'investigation sont une espèce, comme bien d'autres espèces de la planète, d'ailleurs en voie de disparition. Le quatrième pouvoir, oui, bien sûr que des journalistes, des médias ont été mes alliés pour faire émerger des affaires, et ensuite pour réduire le rapport de force structurellement trop asymétrique avec les très puissants. Et les très puissants, quand ils arrivent à gérer très bien le risque judiciaire, parce que le risque judiciaire est un risque finalement qui est managé par des équipes d'avocats et qu'on dilue, qu'on étire sur des années et des années, les journalistes, s'appuyer sur les médias n'a jamais été aussi important, alors que le risque réputationnel n'a cessé de grandir. Je veux dire, le risque réputationnel, c'est le fait que ces entreprises qui ont pensé, en inondant la planète de messages éthiques, réduire le risque judiciaire, finalement, ont créé, ont fabriqué, sans forcément qu'elles l'anticipent, parce qu'elles restent quand même psychiquement très court-termistes, à risque réputationnel, qui est un levier avec lequel il faut savoir jouer, sans cynisme, sans être des maîtres chanteurs, mais avec lequel il faut savoir jouer sans angélisme.
Alors, l'idée, c'est de te faire venir pour ce livre, on va en parler. Il se trouve qu'il y a une actualité qui fait que on doit peut-être faire un petit détour par Navalny, dont tu étais l'avocat, qui est décédé, et dont tu dis dans ton livre, d'ailleurs, que c'est une des rencontres les plus bouleversantes de ta vie, alors qu'il y en a un paquet, quand même, de rencontres bouleversantes. En quoi la rencontre de Navalny t'avait bouleversé ?
Moi, je pense qu'il y a des êtres comme ça qu'on rencontre qui accèdent à une forme de grâce. Quand je dis une forme de grâce, David, je veux dire qui ont une dimension universelle dans ce qu'ils sont et qui donc laissent un message universel dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent. Et cette grâce, elle est sans doute un point de rencontre entre le très intime et le très universel. C'est-à-dire quelqu'un qui a une espèce d'harmonie, d'unité avec lui-même et ses très proches et les personnes qu'il aime. Évidemment, Yulia, sa femme qui était à côté de lui quand je les ai vus tous les deux à Berlin, dans une espèce d'entente, de partenariat, d'amour réciproque, absolument exceptionnel, et un humanisme qui ne se dresse pas simplement s'agissant d'Alexei quand il prenait le micro, mais qui était un humanisme le soir à 2h du matin, quand plein de délicatesse et de gentillesse, il se souciait de savoir si tout le monde allait bien, alors qu'il venait de sortir de l'hôpital. Mais un type bouleversant. Bouleversant parce que très humain au plus profond de lui-même et très humain pour l'humanité. Voilà, c'est ça la grâce. Donc, de mon point de vue, Edward Snowden, que j'ai rencontré plusieurs fois à Moscou, avait cette dimension-là. Et c'est ce qui permet à ces humains hors normes, quand ils s'expriment, quand ils agissent, de toucher le plus grand nombre. Voilà. Donc oui, ça a été une rencontre les plus bouleversantes. Je savais qu'il allait rentrer à Moscou, il s'y préparait, et tout le monde savait qu'il allait se jeter dans la gueule du loup infâme.
Le Snowden, tu en parles évidemment dans ton bouquin. Il y a une anecdote assez rigolote, c'est que tu oublies ton petit sac, ta petite sacoche avec tous les documents, et Snowden se demande.
Mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'avoir un avocat aussi distrait. Il y avait des types du FSB qui étaient là. Bon, je pense que c'était il y a quelques années, mais ma distraction a provoqué parfois d'immenses fous rires, y compris chez mes enfants ou mes très proches. Et un peu d'affolement, parfois chez certains clients, j'en oublie des trucs, hein, dans les aéroports, des trucs, des gabardines, parfois, j'ose pas le dire, des dossiers, je ne citerai pas, mais finalement, par je ne sais quel karma ou je ne sais quelle divinité, ça n'a jamais fabriqué de drame.
Je reste sur Navalny parce que dans ton livre, j'ai appris, en fait, je ne savais pas, qu'une partie de ses déboires, c'est à cause de la France, c'est à cause d'une entreprise française, Yves Rocher.
Oui.
Dont, si j'ai bien compris, l'affaire est encore en cours, donc tu peux pas aller trop.
Elle est toujours pendante devant la Cour de cassation. Si, je peux en parler parce qu'elle était très publique.
Oui.
Non. Il y a eu un non-lieu qui a été rendu par la Cour d'appel de Rennes. Un non-lieu que je trouve très critiquable. On a fait un pourvoi. Bon, on va voir ce que dit la Cour de cassation. Encore faut-il que. Bon, Oleg. Son frère, qui était parti civil, qui est toujours parti civil, m'a pas délié de mon mandat. Donc la procédure continue. Et Yulia peut, en qualité d'ayant droit, si elle le souhaitait, mais elle a évidemment d'autres préoccupations, reprendre cette procédure, mais pourquoi pas. C'est la caricature de ce que certaines entreprises multinationales font quand elles considèrent que pour des raisons d'expansion, des raisons économiques, elle complaise à un pouvoir, si despotique et si autoritaire soit-il. Donc, il y a de nombreuses années, le représentant d'Yves Rocher à Rostock avait fait une lettre de dénonciation visant une entreprise dont Alexei et son frère étaient actionnaires. Ils ne visaient pas, de façon nominale, Alexei et son frère. Mais enfin, de notre point de vue, je pense qu'on l'avait démontré, on n'a pas été entendu, ça arrive. Ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils visaient Alexei et son frère. Ils n'ont fait pas entre les mains de je ne sais quel enquêteur, entre le comité des enquêtes criminelles, qui est un comité qui a été créé par et pour Poutine, et dont tout le monde sait, c'est hyper documenté, c'est l'instrument de persécution de Poutine quand il veut faire taire des opposants, appréhender dans une logique prédatrice des entreprises rivales de son clan, etc. etc. Donc, j'ai dit, et je redis ici, que les juges de Vannes et de Rennes ont été trop frileux, trop timorés. Était-ce l'extraterritorialité? Était-ce le poids de, je ne vais pas dire complotiste, d'Yves Rocher, principal employeur à Vannes, mais trop frileux. Cette procédure aurait dû aboutir à la mise en examen d'Yves Rocher. Il reste encore un petit espace, mais c'est la démonstration de notre obligation de n'avoir aucune naïveté avec ces entreprises. Elles communiquent éthiquement à tout va, elles deviennent amoureuses des droits humains. Quand on lit leur site internet, on a l'impression que c'est écrit à quatre mains par Stéphane Hessel et
Mère Teresa.
Voilà,
ouais, je te cite. Hein, c'est...
Oui, c'est formidable quoi, quand on les lit comme ça facialement.
Les pétroliers.
Et puis, Beyond the Scene, loin des yeux. Dans une logique de pas vu pas pris, on a des comportements qui sont totalement à l'envers de ce qu'on programme pour apaiser l'inquiétude éthique et morale des consommateurs et parfois des actionnaires, pas suffisamment.
Mon cher William, le chat réclame d'entendre mieux ta voix douce et grave. Il faudrait que tu portes un peu le micro vers toi
ou que tu
chauffes la voix là ou l'autre. Les deux sont possibles. Je te fais parler de Navalny parce que dans ton livre, il y a quelque chose d'abord qui est vraiment magnifiquement écrit. Et notamment dans les portraits, parce que tu arrives presque avec tout le monde à dire le pire comme le meilleur, c'est-à-dire que tu vas vraiment dans les nuances. Sur Navalny, bon, tu n'en parles pas, mais je suis quand même obligé de le faire. Certains, sans se réjouir évidemment de sa mort, ont quand même dit « Navalny, c'est pas le juste dont tu parlais peut-être à l'instant, c'est quand même un type qui a fricoté avec l'extrême droite à un moment donné, qui, s'il était ici, ne serait pas un camarade. » Qu'est-ce que tu réponds à ces critiques venues de la gauche concernant Navalny ? Est-ce que tu penses que face à Poutine, on ne demande pas le passeport et le CV de ses opposants ? Ou est-ce que tu penses que, bah oui, ça fait partie du bilan et qu'il faut le prendre en compte ?
Bah, d'abord, je ne trouve pas ça anormal qu'après la disparition d'une personne si exceptionnelle soit-elle, qu'il y ait une espèce d'inventaire et que on ne canonise pas au point de d'enrober la personne assassinée comme Alexei l'a été, on y reviendra peut-être, d'une espèce de manteau de pureté absolue, etc. Bon. La chasse aux impuretés, je connais, David. Je l'ai vécu moi-même. Quand on prétend participer au débat public, partager ses convictions au nom du bien public, on est l'objet d'une chasse aux impuretés. Je l'ai vécu et je continue à le vivre. Donc le moindre petit décalage, la moindre erreur peut se transformer en bûcher. S'agissant d'Alexei, pourquoi aurait-il échappé à des erreurs de parcours au nom de quoi quelqu'un qui a eu un parcours héroïque, exceptionnel de courage, qui a quand même réveillé les consciences politiques chez la jeunesse en Russie, n'aurait pas lui-même fait des erreurs de jeunesse. Oui, il a participé à une manifestation dans une dynamique du grand nationalisme russe, la grande Russie. Le nationalisme d'ailleurs qui n'a pas la même connotation hein, en Russie qu'ici, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Et il a participé à une manifestation où il y a eu des mots d'ordre, anti-musulmans, anti-tchétchènes, absolument immondes, qu'on réprouve évidemment tous les deux et bien des auditeurs. Bien, c'est dans son parcours, et ensuite il a pris des positions extrêmement nettes pour dénoncer l'annexion de la Crimée, pour rappeler la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et il l'a fait en prison, c'est-à-dire qu'il a contesté la politique de Poutine en Ukraine, de prison. Donc oui, c'est un double, triple courage. Donc, quand on fait le... Je n'aime pas le terme de bilan, mais s'il faut endosser ce terme, oui, il reste injuste, il reste une personnalité hors norme. Il n'y a qu'à voir des filets qui continuent matin et soir de ces familles russes groupées dans la neige qui vont apporter les fleurs. Mais pour autant... oui, il y a quelques épisodes dans sa vie qui ne méritent pas d'être loués, oui, comme toi, comme moi, comme tous les humains.
Cette question de la chasse aux impuretés, elle traverse un peu ton livre de souvenirs, à la fois te concernant toi et les autres, mais est-ce que tu dirais qu'elle a gagné en intensité au fil des années ? Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la tolérance aux impuretés est devenue encore plus faible qu'avant ?
Alors oui et non.
Ou plus forte, enfin.
Non, ouais, non, David, oui et non. En fait, oui et non. Oui, parce que plus tu t'approches du réacteur nucléaire, de la face la plus noire, la plus obscure du marché, et du néolibéralisme, je veux dire, les grandes oligarchies financières, la grande corruption internationale, le grand entre-soi mondial, plus tu t'approches de ce cœur nucléaire, plus les coups peuvent être extrêmement violents. Et ils vont l'être de plus en plus. Ils vont l'être de plus en plus parce que les pouvoirs partout se raidissent, sont de plus en plus illégitimes. Et les logiques court-termistes face à ce qui est annoncé, c'est-à-dire pas simplement notre propre finitude individuelle, je veux dire notre mort, mais la mort de la planète, cette double finitude, c'est ce que j'explique dans le livre, est un facteur de crispation et d'accélération des logiques prédatrices et des logiques d'enrichissement. À l'envers de ce qu'exige la protection de l'intérêt général, le bien public, c'est-à-dire se placer dans une logique de long terme. Alors, oui, ça peut s'aggraver. Donc, je suis d'une vigilance de chat sauvage, de lynx. Je fais très attention. Parfois, je flirte même un peu la parano. Enfin, je suis à la lisière. Je vois la ligne rouge de la parano, mais je m'approche. Non, c'est un jeu subtil. Et un peu moins parce que le fait maintenant, 67 ans, 45 ans, un peu de bouteille, fait que je suis sans doute un peu plus inattaquable. Enfin, c'est un peu plus compliqué de me déstabiliser, de me faire des chantiers, même si certains en rêvent, et même si je sais qu'il y a des officines qui des snipers là au coin du bois. Si je fais une grosse connerie demain public, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se pourlécher les babines.
En oubliant des codes cachés, écris-tu page 34, notamment une certaine connivence entre l'avocat et le juge, je me suis parfois perdu et j'ai noyé des clients. J'ai aussi mesuré, non sans dégoût, que ce métier, donc celui d'avocat, pratique une forme de mauvaise foi sincère. Est-ce que tu es de mauvaise foi sincère devant moi et devant les millions de gens qui t'écoutent? Sache que tu as un petit peu d'eau ici. Hein,
si mais non, non, évidemment, bon, évidemment non. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que d'abord, il y a plusieurs façons d'être avocat. Chacun le sait très bien. Et que les premières années, tu fais l'expérience. Tu fais des expériences successives et multiples qui t'amènent à trouver le bon point d'étiage, le bon point d'équilibre entre préempter la vérité dans le procès. Donc, je dis préempter la vérité, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit la vérité de ton client qui s'impose et qui devienne la vérité judiciaire. Mais de le faire dans le respect de toi-même, et dans le respect du juge, c'est-à-dire justement en évitant les sincérités sélectives et successives et en évitant la mauvaise foi sincère. C'est parfois à la lisière. C'est une danse subtile et délicate. Les avocats qui endossent la vérité de leurs clients, sans l'ombre d'une distance critique, sans ironie, sans humour, contre l'évidence du dossier, contre le bon sens, sont juste des clowns tristes. Ils ne le voient pas, mais moi je le sais. Mais il y a des magistrats, quand ils rentrent en délibéré, de temps en temps se gondolent, tellement certaines plaidoiries sont pathétiques et n'ont été délivrées que pour le client, la salle ou les journalistes. Donc oui, c'est un équilibre difficile, mais moi, depuis des années, je m'astreins à ne plaider que ce que je crois juste et vrai. Mais plaider ce qu'on croit juste et vrai ne veut pas dire qu'on ne se plie pas à cet exercice dialectique qui est parfois de minimiser certaines parcelles de la vérité au profit d'autres, dans un jeu d'ombre et de lumière. Voilà. Mais sans masquer au juge qu'on le fait, mais qu'on le fait pour la bonne cause.
Contrairement aux acteurs de cinéma, écris-tu page 41, les avocats n'ont qu'une prise. Si on la rate, on peut ruiner une vie. Avec beaucoup d'efforts, un peu d'amnésie, on peut s'en laver les mains. L'angoisse de l'avocat, comme celle du pianiste que tu es, c'est la fausse note. Et l'avocat n'est pas un interprète. Sa partition n'est pas écrite. Il improvise à partir de mots de son client. Il ne se sert pas des failles pour se mettre dans la peau d'un personnage. Il s'en sert pour rendre humaine celle de son client. Nous sommes comme des acteurs, caméléons et ventriloques, et en jouant ou en plaidant, nous soldons des comptes avec nous-mêmes. Quels sont les comptes que tu as à régler avec toi-même ?
Je pense que dans tous les métiers publics, les métiers de prise de parole publique, ou les métiers où tu te hisses en espérant participer au bien public, en tous les cas, réduire la course folle du monde, qui devient de plus en plus insensée, humaniser le monde, humaniser son client, oui, se joue forcément des choses très intimes, qui touchent à profondément d'où on vient, comment s'est construit son rapport à l'injustice, son intolérance à la violence, la façon dont on s'est structuré par rapport au bien et au mal. Quand je dis solder les comptes avec moi-même, c'est que je dis à un moment donné dans le livre, au début, les premières années, ça a été j'avais pris une carte d'embarquement et le vol aurait été vol pour la reconnaissance. Oui, bien sûr qu'il y avait une espèce de soif d'être reconnu, de retrouver confiance en moi. J'étais un adolescent un peu souffrant, un peu difficile, un peu compliqué. Bon, je le dis dans le livre, et comme beaucoup d'hommes, comme beaucoup de femmes, bah, à un moment donné, tu arrives à être dans une forme de tranquillité, qui est toujours intranquille, mais une forme de tranquillité, qui fait que tu te sers de qui tu es au plus profond pour atteindre l'universel et pour toucher les jurés ou pour toucher les juges d'une façon qui était plus naturelle, moins empruntée et donc plus efficace. Je pense que ça a été le cas et ça reste encore le cas quand je prends la parole. Mais c'est toujours sur le fil, c'est le titre, mais c'est toujours sur le fil, c'est toujours sur la crête.
Comment expliquer des représentants d'une ONG à Gaza que l'image d'enfants palestiniens fauchés, après avoir connu des variations de cote depuis 20 ans, est désormais fortement à la baisse? Alors évidemment, ce livre a été écrit avant le 7 octobre. Enfin, cela dit, je pense que ce que tu dis vaut encore aujourd'hui. Comment justifier les asymétries d'indignation entre l'horreur faite aux Rohingyas et celle subie chaque jour, dans un quasi-silence, par les peuples martyrisés aux confins du Congo ou de l'Ouganda? Comme le mouvement spéculatif des actions, le cours, entre guillemets, le cours des victimes, indexé sur les variations saisonnières et médiatiques, ne s'est jamais décoté aussi vite. Il repart beaucoup plus rarement à la hausse. Certaines victimes définitivement sorties de la cote sont mortes deux fois.
Oui, ça c'est... Alors, dans... Évidemment, le rôle de l'avocat, le rôle des ONG, à travers les ONG que j'ai créées, a été de disser, de sortir du silence, le silence tue, des victimes qui étaient comme ça reléguées, oui. Bannies. Il y a un facteur qui est clé et qui fait qu'une victime s'universalise, c'est le fait que l'Occident s'identifie à la victime. Plus la victime nous ressemble, plus on s'identifie. Plus la victime est perçue comme dans l'antichambre de la barbarie, ou comme dans un compagnonnage avec la barbarie, et plus elle est perdue. L'identification que la politique israélienne a réussi à faire entre la population de Gaza et les Palestiniens en général, et le terrorisme, et au-delà que la fachosphère, l'extrême droite, unie avec l'hypersionisme le plus fanatique, faire entre migrants, musulmans, palestiniens, terroristes, fait que tous ceux qui sont victimes de ce côté-là ont vu leur cote absolument dégradée depuis 20 ou 30 ans. Alors, tout a changé, évidemment, depuis le 7 octobre, depuis le massacre atroce du 7 octobre commis par le Hamas. Et puis, il y a quelque chose auquel on assiste. J'ai écrit un article de Libération il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire l'agonie du droit international humanitaire dans les fosses communes, dans les bombardements de Gaza. Ce à quoi on assiste à Gaza est totalement inédit dans l'histoire contemporaine. Il faut bien se le dire. Totalement inédit. Et le monde continue à regarder ailleurs. Et même si beaucoup de gens, mon frère habite Tel Aviv, professeur de sociologie des médias à Tel Aviv, même s'il y a beaucoup de gens d'Israël qui commencent à s'inquiéter d'un décrochage entre Israël et alors les pays du Grand Sud, bien sûr, mais aussi une partie de l'Occident, bien sûr les États-Unis et l'Angleterre, plus que la France et l'Allemagne, on est quand même deux pays du remords et de la culpabilité. On vit deux bascules, là. Ukraine, Russie, Gaza, Israël, on vit là un moment de bascule très, très anxiogène, très imprévisible pour l'humanité, certainement, oui.
C'est pourquoi je t'ai lu ce passage. C'est parce que j'aimerais comprendre comment tu expliques cette détérioration, cette dégradation incroyable du droit international. Comment tu expliques que les variations des cours sur les victimes soient aussi speed, aussi rapide désormais?
D'abord, cette assimilation arabo-musulman, terrorisme, a contribué à déshumaniser les victimes du côté des Palestiniens et du côté des musulmans. Ça, c'est quand même assez net, même s'il y a une grande complexité. Vous pouvez bien que les victimes principales du terrorisme, c'est d'abord les musulmans, ce qui est largement oublié. Bien. Ensuite, il y a l'emballement médiatique, le court-termisme médiatique qui fait que on préempte tout d'un coup un sujet, tu connais ça mieux que moi, et on en fait une espèce de buzz qui tout d'un coup disparaît parce qu'il est chassé par une autre victime. Toujours les effets toxiques du terrorisme. Les effets toxiques du terrorisme, on n'aura jamais fini de les sonder. Hein. C'est la militarisation de l'espace public, le droit d'exception qui se banalise dans le droit commun, et ça participe à la déshumanisation du monde. Et là, il n'y a pas d'affaissement du droit international sans déshumanisation des victimes. Et l'affaissement du droit international, il a commencé avec toutes les lois d'exception de Bush en 2001. C'est-à-dire Patriot Act, Guantanamo, les Unfold Combatants, sortir des conventions de Genève, pas de protection des prisonniers de guerre pour ceux qu'on attrapait ou qui étaient livrés par les Pachtous lors de l'invasion de l'Afghanistan après le 11 septembre. Et donc c'est amorcé à ce moment-là, accéléré par l'assassinat à distance, la déshumanisation virtuelle, mais réelle, les drones, les assassinats extrajudiciaires, Israël, les Américains. Et tout ça n'a été possible parce que progressivement, ceux qui ont été la cible de ces actions ont été déshumanisés. Le paroxysme de la déshumanisation qui permet l'affaissement total du droit humanitaire, c'est les propos de certains ministres du gouvernement israélien qui disent qu'il faut raser Gaza, ce sont des animaux. Quand tu dis d'une victime que c'est un animal, tu la déshumanises complètement. Et donc il n'y a plus de scrupules morales, il n'y a plus d'obstacle juridique à la tuer, puisqu'elle est totalement déshumanisée.
Il y a tout un chapitre consacré au terrorisme, intitulé « La défense impossible des suspects de terrorisme », dans lequel tu reviens sur ce que tu viens de dire, en disant que ce cynisme qui gangrène nos démocraties, alors c'est ce qui peut être fait au nom de l'antiterrorisme, hein, ce que tu viens d'expliquer, que ce cynisme qui gangrène nos démocraties n'indigne plus grand monde. Parmi ceux qui disent que la fin justifie les moyens, on trouve, hélas, des magistrats. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ?
Alors, moi je trouve qu'il est un magistrat absolument formidable, c'est-à-dire que j'en profite pour dire que je suis pas du tout dans une logique de guerre justement avec les magistrats. Je pense qu'à un certain moment il faut être absolument inflexible, implacable, il faut mener des guérillas à l'audience face à des magistrats qui sont des instruments de la répression la plus mécanisée, la plus déshumanisée, bien sûr qu'il y en a. Oui, il y a des magistrats qui ont eu du mal à résister à cette logique de la fin justifie les moyens, oui, bien sûr, qui ont été pris dans cette espèce de gang, qui étaient au fond, on leur demandait d'être les acteurs d'un risque zéro, ou de mettre en place un principe de précaution qui serait passé, un principe de précaution des biens aux personnes. Et c'est à ce moment-là que s'étiole la présomption d'innocence, la loyauté de la preuve, ce que je raconte dans le procès qui a été fait à Mourad Benchelali et à Nizar Sassi, qui sont devenus de très bons copains, qui sont de jeunes gens absolument formidables, très courageux, que je salue. Et oui, Jean-Louis Bruguière a été pour moi de cela. Oui, je l'ai combattu et j'ai trouvé que la façon dont il a instruit certaines affaires n'a pas été très honorable, et qu'il s'est mis au service du politique. D'une certaine façon, oui, il s'est mis au service du politique. En tout cas, il l'a anticipé. La façon dont il a mené les interrogatoires de ces deux jeunes Français hirsutes, totalement traumatisé par le passage de Guantanamo, oui, ça a été une forme de sadisme, de jouer sur leur épuisement mental et psychique jusqu'au bout de la nuit. C'est pour moi, Jean-Louis Bruguière, c'est pas un magistrat que je mettrais dans mon panthéon des juges aujourd'hui.
Au lieu de nous pousser à éradiquer la situation qui les a créés, les terroristes ont de machiavéliques qu'ils nous jettent dans les bras d'un état d'exception permanent. Ils s'installent insidieusement et, comme le mensonge, il est difficile d'en sortir. La menace terroriste profite des fragilités de nos démocraties et de leurs dirigeants. Je lis ça parce que je trouve que ça résume ta position du bouquin, c'est-à-dire que tu essaies d'examiner, tu instruis parfois à charge et à décharge, là où un avocat, en règle générale, s'intéresse qu'à la décharge. j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Tu as défendu des terroristes ou des gens accusés de terrorisme. Pour autant, tu ne défends pas le terrorisme. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui pourraient dire, face aux menaces qu'il y a aujourd'hui, finalement, il faut sortir du droit, puisque le droit lui-même est sorti du droit.
Alors moi, je suis très fier de rester dans ma génération, un des seuls qui continue à défendre des suspects de terrorisme, parce que c'est une défense qui a été désertée par ma génération. Quand même, c'est les jeunes qui y vont maintenant, très courageusement, vaillant, mais c'est l'autre génération.
Pourquoi ta génération a déserté ?
Je ne vais pas leur faire la leçon. Parce que c'est casse-gueule. Le fait est que c'est casse-gueule. C'est casse-gueule en termes d'image publique, quand on défend le marché, le 440, défendre un mec suspect dans l'attentat de Charlie Hebdo, et le matin et l'après-midi, un PDG du 440 devant l'autorité des marchés financiers, à mon avis, pour certains avocats, c'est un grand écart pas jouable, quoi. Caricature, mais tout le monde me comprend bien. Ça a été conceptualisé par des grands religieux qui est proche de Ben Laden. Il y a des écrits. On va pousser, mais ça a été aussi, c'est en écho avec certains textes de Bader et de Ulrike Meinhof. Hein, on révèle la face néofasciste. On va pousser les démocraties à se saborder. Et plus elles se sabordent, plus elles vont stigmatiser les musulmans, plus elles vont stigmatiser les musulmans, plus le régime va être liberticide, et plus ça va au fond servir nos intérêts à long terme. Avec évidemment des tas de variantes. Donc oui, c'est un piège absolument diabolique et toxique. Et ce que certains ont compris, c'est que ils se sont sortis à des pouvoirs de plus en plus illégitimes. Je veux dire que nos régimes, là, nos élites politiques sont à la peine. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Peine de légitimité, peine de rassurer les gens sur le fait qu'elles vont nous protéger de façon sincère et efficace par rapport aux grandes menaces, le réchauffement climatique, les atteintes à la biodiversité, l'accélération des grandes fractures sociales et territoriales, au moment où beaucoup se dessillent les yeux et se disent quoi ? Mais qu'est-ce qui est en train de gagner là ? C'est la logique du marché, c'est le néolibéralisme revêtu de nouveaux habits, mais c'est quand même le néolibéralisme autoritaire qui est en train de s'installer partout. Donc les esprits les plus malicieux au sein de la galaxie du terrorisme islamiste savent ça très bien. Nos démocraties sont fragilisées, sont à la peine, sont souffrantes. Le message universel, le drapeau universel qu'on s'était forcé de diffuser à travers le monde s'est déchiré du fait des crimes commis par l'Occident. Il est encore plus déchiré du fait de la complaisance avec laquelle on a poussé Israël dans cette guerre atroce à Gaza. Moi, quand j'allais il y a 20-25 ans en Afrique, j'avais pas de honte à dire mais il y a les droits humains, il y a les conventions internationales, tout ça, machin, il y a universalité des droits, et Voltaire, machin. Aujourd'hui, on a l'air de quoi quand on va dans le Grand Sud et qu'on vient avec le drapeau universel chanté par l'Occident. Là, il y a une bataille, j'espère provisoirement, mais il y a une bataille qu'on a perdue.
Le chat demande quelles sont les ONG que tu as créées. Il y en a au moins trois.
Alors, il y en a trois. Il y a Sherpa, que j'ai créé en 2001, qui a été une petite ONG qui est montée très vite, qui a été un formidable succès. Maintenant, c'est entre les mains d'autres personnes.
Tu peux dire en quelques mots quels sont les succès accumulés ?
Oui, alors bon, d'abord, ça a été les premières procédures où on a taquiné la responsabilité des boîtes. Et où des procureurs nous disaient il y a 15-17 ans, mais enfin maître, le parquet de Paris ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Les choses ont un peu changé, c'était intéressant. C'est se battre pour la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ça aboutit à la loi de mars 2017, qui est imparfaite, c'est déjà un premier pas. La loi sur le devoir de vigilance, que la France est en train de détricoter à Bruxelles la directive européenne qui doit moderniser encore plus ce dispositif juridique. On est dans une période de renoncement, là, mais qu'on ne peut pas imaginer. Enfin, c'est absolument effrayant. C'est l'accord passé pour des damnés de la terre, 10 voyages Birmanie, Thaïlande, des anciens travailleurs forcés sur le site Yadana, l'exploitation du gaz par Total, où un compte a été abondé par Total, 5 millions d'euros, qui a changé la vie de milliers de réfugiés birmans.
Et tu racontes,
c'est une aventure formidable.
Tu racontes quand tu arrives à la frontière birmane et thaïlandaise, je crois.
Oui, c'est ça.
Et que tu dis, voilà, bah vous aurez chacun 10 000 euros.
10 000 euros, il fallait trouver le prix. C'est quoi le prix de dommages à intérêt pour quelqu'un qui n'a pas de carte d'identité.
Et que ces gens sont en pleurs.
Et des gens
en pleurs de joie. Enfin,
de joie, puis de reconnaissance. Des ONG m'ont dit, vous êtes le Père Noël.
Et d'autres vont t'accuser d'avoir...
Ah là, qu'est-ce que tu veux. Je ne suis pas toujours très tendre avec les autres ONG. Alors bon, les autres ONG que j'ai créées, pardon.
Voilà.
Donc Sherpa, et puis l'aventure des biens mal acquis quand même.
C'est, oui, c'est bien mal acquis.
Que j'ai eu. L'accord avec Areva, que j'ai déchiré. Et puis bien d'autres procédures, la mise en examen de Vinci par un juge d'instruction de Nanterre, il n'y a pas très longtemps, pour l'esclavage, je crois, les conditions dans lesquelles Vinci a... participer à des chantiers au Qatar. Ça, c'est aussi une première part très importante. Bon, c'est clair que ces grosses boîtes, pour qu'elles soient responsables, ça va être beaucoup, de plus en plus de force plutôt que de gré. Hein. Ça, c'est clair. De force plutôt que de gré. Bon, bref, Sherpa, PLAF, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, il y a 6 ans, un bureau à Johannesburg, 4 personnes, Dakar 5 personnes, Paris. Allez, regardez sur le site, ce qu'on fait est absolument formidable. On a aidé la défense des 4 femmes, c'est pas un hasard, 4 femmes, une blanche et 3 noires. 4 femmes formidables en Afrique du Sud, qui étaient les 4 lanceuses d'alerte. On n'a pas beaucoup parlé en France, mais en Afrique, oui, qui ont fait tomber Zuma. On fait tomber celui qui a profané le testament de Mandela, quand même, cette saloperie, là, type corrompu jusqu'à la moelle, qui tient maintenant tellement dirigeant de l'ANC, comme ça, par des jeux de corruption, c'est horrible. La corruption, toujours, partout, malédiction. Voilà, et puis là, on est en train de créer...
Oui, une troisième, parce que comme tu l'écris dans ton bouquin, si tu ne crées pas une ONG tous les 10 ans, tu déprimes.
Voilà, mais non, je pense que je vais m'arrêter.
Ça m'a bien fait marrer. Alerta,
la sœur de PLAF, donc plateforme de protection des lanceurs d'alerte, qui va être cette fois en Amérique latine, avec un focus particulier sur des questions environnementales que je connais bien, puisque je porte la plainte devant la Cour pénale internationale pour Raoni, le grand chef indien, pour crimes contre l'humanité, toutes les déforestations, les exactions en Amazonie. Alerta. Et après, je laisserai les autres prendre le relais.
Tu es effectivement, parfois, tu as la dent dure envers certaines ONG, dont tu critiques parfois le côté naïf, parfois le côté jusqu'au boutiste, parfois le cynisme, et tu écris carrément, page 77, « Rien n'est plus insupportable que ceux qui utilisent les droits humains comme marchepied, qui s'offrent un piédestal sur le dos des vaincus. »
Moi, j'ai participé à ça. J'ai dit que dans la posture de l'indignation, il y a parfois une paresse. Il y a une paresse et qui vous dispense de réfléchir. Il ne suffit pas de s'indigner. Il faut aussi convoquer les forces imaginantes du droit, comme disait Mireille Delmas-Marty. Et plus le monde devient complexe, plus la symétrie dans le rapport de force est immense. Certes, battre le macadam, c'est essentiel. Gueuler, c'est essentiel. S'indigner, c'est essentiel. Mais l'attitude protestataire ne suffit plus. Et il faut la dépasser. Comme il faut dépasser des logiques qui sont en même temps le piège que nous tend nos adversaires, c'est-à-dire le clivage, la radicalisation. En même temps, je trouve juste que les causes aujourd'hui se radicalisent. Je comprends la radicalisation. Et je l'accompagne en tant qu'avocat des militants d'extinction, etc. Je l'entends et je pense que je sais trouver des mots pour lui donner la dimension universelle qu'elle mérite. Mais c'est aussi un piège, la radicalisation. Surtout la radicalisation idéologique. Parce qu'au fond, ça compromet justement la recherche de stratégies qui, pour être efficaces, doivent rester, doivent sortir des deux mainstreams et doivent être sur la crête, doivent être subtiles, doivent protéger le devoir de nuance pour être audible par le plus grand nombre, et notamment par les juges, et aussi pour rassembler et pour fédérer au-delà de son camp. Parce qu'on gagne une bataille parce qu'on arrive à fédérer au-delà de son camp, tu le sais bien toi, dans les combats que tu mènes. Donc oui, j'ai parfois la dent dure, je trouve que des ONG se sont un peu tirées des balles dans le pied. Mais en même temps, elles se sont magnifiquement professionnalisées. Il y a des gens admirables qui travaillent dans des conditions parfois extrêmement difficiles et inconfortables. Il y a quand même encore parfois des querelles de clochers. Je pense qu'il faudrait aller plus loin dans la recherche de grands collectifs mondiaux entre les grandes ONG pour véritablement lancer des procédures imaginatives, inventives. Voilà, il y a une fatigue de l'engagement. Il y a une fatigue de l'engagement. Il y a un épuisement. C'est devenu tellement difficile. Ça demande parfois des sacrifices tellement lourds pour sa vie personnelle ou sa santé, whatever. C'est tellement compliqué pour des résultats qui deviennent tellement incertains. Je comprends aussi, j'entends aussi ce qui fait que parfois on plie le genou. Même si de la résignation au cynisme, il y a parfois un pas qui peut être franchi trop, on ne s'en rend pas compte, mais rapidement.
Je ne rêve pas, écris-tu page 93, d'un grand soir où seraient jugés les maîtres du grand capital dans le box d'un tribunal planétaire, mais je rêve qu'ils en fassent des cauchemars. Est-ce que c'est ta façon à toi d'être réformiste et non plus révolutionnaire ?
Mais je me sens ni réformiste ni révolutionnaire. Je pense qu'à un certain moment, il faut être révolutionnaire. Je crois à la puissance et à la force de l'insurrection dans certaines circonstances de l'humanité, bien sûr. Le lait tiède qui accompagne l'expression réformisme ne correspond pas, me semble-t-il, à ce qu'est l'ADN de mon engagement et de ce que j'ai fait. Il y a... Quand Darmanin dit des militants... qui sont des éco-terroristes, c'est doublement immonde. Criminaliser ceux qui participent au sauvetage de la planète, c'est le contresens total. Ça prouve qu'on est... Ce type est un crétin, ou plutôt un cynique absolu, un court-termiste. Et c'est absolument méconnaître ce qui est en jeu aujourd'hui. C'est-à-dire, quel est le véritable terrorisme ? C'est celui de l'agro-business. On l'a bien vu là ces derniers jours, et des méga-bassines. C'est ça, le terrorisme qui s'exerce sur la nature. C'est celui-là qu'il faut combattre. C'est celui-là que nos gouvernements et l'Union européenne devraient combattre, au lieu de, à nouveau, donner l'autorisation au glyphosate et fermer les yeux sur les polluants éternels qui sont en train d'intoxiquer nos ruisseaux pour des générations et des générations. On marche sur la tête, on est là dans... Alors, ce qui est terrible, c'est que la logique court-termiste dont je parlais et qui inspire beaucoup d'entreprises, elle inspire aussi les pouvoirs politiques. C'est-à-dire, ils n'ont jamais été aussi obsédés de survivre politiquement, quoi qu'il en coûte. Mais quoi qu'il en coûte, pas pour le bien public, quoi qu'il en coûte, au prix du mépris de grands principes démocratiques ou de grands principes éthiques.
Il est... 9h53, je ne sais pas jusqu'à quelle heure tu as...
Bah, je ne sais pas, je pensais une heure, non je
pensais...
Un peu plus, alors peut-être.
Allez, un petit peu plus, parce qu'il y a plein de questions du chat.
Je vois, c'est formidable. Oui. Je lis, personne n'a jamais prétendu qu'une attitude protestataire suffit. Oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est exact, personne n'a prétendu ça. Mais parfois, il y a une certaine... un oubli qu'au-delà de l'attitude protestataire, il faut structurer une lutte, préparer des stratégies, et ça se demande autre chose que simplement hurler dans un mégaphone. Et parfois on en a marre. Voilà.
Je te vois assez fasciné par l'écran là.
Je trouve ça absolument incroyable. Oui, je lis en même temps.
Je donne un petit passage, tu n'es pas obligé de le commenter, mais qui rejoint ce que tu disais sur l'universalisme déchiré. Les droits de l'homme, écris-tu page 165, agissent comme une petite crème apaisante sur leur morale, la morale de certaines ONG. On n'en jouit que mieux, on s'en enrichit avec plus de tranquillité. Voilà.
Ah ben je pense qu'on est dans l'ère d'un double blanchiment, David. Il y a le blanchiment des dizaines de milliards d'argent sale tous les jours siphonnés, recyclés dans les grands circuits financiers de la planète. Et puis il y a le blanchiment de ceux qui en sont les acteurs, qu'ils soient des politiques, des financiers. C'est-à-dire le blanchiment, c'est j'estropie, j'abîme la planète, l'humanité, Goldman Sachs, mais je fais des fondations formidables dans lesquelles je me mets en scène, et je suis là financer la lutte contre l'excision, je déverse des sacs de riz, sacs de riz, évidemment le symbole, tout le monde comprend, sur le Darfour. Donc je me blanchis peut-être même de mon propre blanchiment, c'est-à-dire du fait que je suis moi-même un acteur du blanchiment. Voilà le paradoxe dans lequel on est. Voilà le paradoxe. Alors évidemment, il y a des tas d'acteurs qui font ça. Et donc j'estropie, oui, je cingle un peu certains confrères qui, je pense, sont reconnus, hein, j'espère.
Qu'on reconnaît, mais je laisse à la sagacité de ceux qui achèteront ton bouquin de découvrir. La minute boîte à outils, s'il te plaît. Tu nous écris, page 207, un ancien espion. Alors, il faut dire que tu as rencontré un certain nombre de gugus de par le monde. Certains t'ont quand même mis des flingues sur la tempe. Tu nous racontes tout ça, etc. Puis bon, voilà, les avocats ne défendent pas que des innocents. Bref, tu as reçu un ancien espion qui t'a appris qu'il n'y avait rien de mieux que le bruit de l'eau pour brouiller les conversations, le bruit de l'eau, hein, donc faire couler l'eau, bien sûr un café, après avoir éteint tous les téléphones et les avoir enfouis au fond de mon cartable. T'as pas mieux comme subterfuge?
Non, mais
comment on peut se protéger, tu vois ce
que... Non, oui. Non,
mais je suis resté un peu sur ma faim.
Non, mais c'est une façon un peu ironique aussi de dire que j'ai acquis une certaine tranquillité, tu vois, donc je m'en fous maintenant. C'est-à-dire que oui, le cabinet a été très surveillé, je pense qu'on aurait surveillé. Une fois j'ai dit à ma compagne, ça l'a fait rire, j'ai dit, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que si j'étais infidèle, tu le saurais, parce qu'aux infrarouges, on m'aurait forcément capturé un endroit ou un autre. Voilà, donc c'était... Non, il y a une période, au début de l'aventure des biens mal acquis, qui a été très intranquille, quand même.
Hein, ouais.
Qui a été très intranquille. Quand mes enfants recevaient des coups de téléphone, c'était petit, j'ai les triplés qui vont avoir 30 ans dans quelques mois. Bon, mais ils avaient 15 ans... coup de téléphone raccroché tous les quarts d'heure, coup de téléphone au bureau, on connaît le chemin que vos enfants font pour aller à l'école, les campagnes de diffamation, des mercenaires qui ont fait le tour de toutes les rédactions de Paris avec des faux comptes qui m'attribuaient des millions de dollars en Asie du Sud-Est, une enquête lancée par celui qui était le directeur de la direction nationale des enquêtes fiscales, oui, le directeur qui a saisi le FBI pour savoir si j'avais des comptes à l'étranger. Je pense qu'il n'a pas agi de sa propre initiative. Je pense que derrière, c'était réseau et réseau. Voilà, mais il se reconnaîtra. Il sait très bien. Il sait très bien. J'ai fait entendre dans le cadre d'une plainte pénale. Évidemment qu'il n'a rien donné. Non, il y a... Quand on s'attaque au gros, il faut être bien équipé. Il faut être bien équipé. Et c'est parfois un coup de fusil, un coup. Il ne faut pas se rater.
Avant de prendre les questions du chat, je voudrais aborder deux petites choses. À un moment donné, tu parles d'un autre William, Gilles William Goldnadel, bon, voilà, avec qui tu as eu des...
Ah, le procès d'Edgar Morin.
Le procès d'Edgar Morin. Ce que je voulais dire, c'est que Goldnadel, son livre, aujourd'hui, il est en tête des ventes, pas le tien. Est-ce que ça dit l'époque?
Ah oui, ça dit totalement l'époque, oui, bien sûr. Mais
il y a 15 ans, ça aurait été l'inverse.
Je ne sais pas si il y a 15 ans, ça aurait été l'inverse. Mais je suis bien à ma place.
Ah oui,
je suis bien à ma place. Il n'y a rien à dire sur Goldnadel. C'est vraiment... Ne dépensons pas de la salive. Vraiment. Mais il est l'incarnation, oui. Il est l'incarnation de quelque chose, bien sûr. C'est-à-dire... je suis un disque très dur, fanatique... qui pactise avec l'extrême droite. Là, il y a un point de rassemblement qui fait grincer d'ailleurs beaucoup dans la communauté juive, avec des acteurs de l'extrême droite qui restent encore globalement infectés par un lourd passé antisémite. C'est pour tout. fallait-il que la haine commune du musulman soit si forte, si puissante, pour surmonter ce qui aurait dû rester éternellement une source de dégoût absolu? Quand même.
Alors, je termine, avant de prendre quelques questions du chat, par d'abord par dire que ton livre s'achève sur un hommage aux femmes, dont tu penses qu'elles vont sauver l'humanité, et pas que ta mère, dont tu nous expliques que le début de ton livre, en fait, c'est une phrase que tu prononces sur sa tombe, que tu as citée tout à l'heure, hein, de l'universel de l'intime à l'universel.
Oui, je remercie ma mère, lors de ses funérailles, je l'ai remerciée, ça a été mes mots, de m'avoir appris, de donner le goût de naviguer de l'intime à l'universel. Je pense qu'effectivement, c'est un fil épais, puissant, qui court dans ce livre.
Et donc, tu rends hommage à des combattantes que tu as croisées, certaines avec une certaine nuance, comme Danielle Mitterrand et d'autres. Bon, voilà, tu nous parles des femmes, tu nous parles de l'importance de mettre à terre le masculinisme qui règne, etc. Et dans le même temps, je voulais y venir, tu as quelques mots qui sont dissonants concernant MeToo. Les excès du wokisme, écris-tu, le fanatisme à la marge du mouvement MeToo sont instrumentalisés avec cynisme pour disqualifier la légitimité de la lutte contre le patriarcat, mais aussi contre les inégalités sociales et les discriminations raciales. Le paradoxe, ce sont ceux qui dénoncent la censure qui sont en réalité les nouveaux censeurs, ceux qui veulent imposer leur pensée unique réactionnaire. Ça, c'est page 227.
Oui, bien sûr. Non, mais les nouveaux réactionnaires sont ceux, oui, je vise les nouveaux réactionnaires qui en permanence instrumentalisent les excès qui peuvent exister dans la cancel culture pour nous imposer leur propre censure. Ça.
Et comment tu te distingues d'un discours de droite par rapport à
alors,
ça
alors,
attention, il faut sortir la plaidoirie. C'est le moment.
Et ben c'est sur la crête, justement. Parce que personne ne peut croire que les grands prédateurs sexuels et les grands prédateurs d'argent. Souvenez-vous des femmes à Beyrouth, en 2019. C'était une première dans l'histoire de l'humanité, je pense une première. On dépend carte et demande la fin de l'impunité pour les grands prédateurs d'argent et les prédateurs sexuels. Elles les mettent dans le même sac. C'est quoi le point commun, David, de la défense des grands prédateurs sexuels, petits, moyens ou grands, de tous ces artistes et metteurs en scène là, qui les uns derrière les autres sont ciblés par des plaintes, et des grands prédateurs financiers? C'est quoi le point commun dans le système de défense? Le déni et la victimisation. Toujours et toujours et toujours. Et le fait de brandir, voire même d'instrumentaliser la présomption d'innocence pour taire tout débat public sur les charges. Je suis hostile à l'instrumentalisation de la présomption d'innocence quand c'est un moyen de bâillonner le débat sur les charges quand il s'agit d'une personnalité publique ou qui a une responsabilité politique. Ensuite, je pense qu'en tant qu'avocat citoyen, je pense qu'il faut être vigilant sur l'instrumentalisation de l'instrumentalisation. Je veux dire, les excès qu'il peut y avoir dans MeToo, et je suis bouleversé chaque jour par cette fantastique révolution copernicienne que représente MeToo. Ma compagne me dit, de temps en temps je dis à ma compagne, mais si tu veux extraire de mon inconscient toutes les petites miettes qui peuvent rester du patriarcat, mais tu ne pourras jamais y arriver, c'est hopeless. Il y a forcément encore quelques petites impuretés patriarcales au dépit de tous les de la modernité dont je fais preuve. Bon, donc je trouve ça absolument formidable, et je pense que les hommes sont encore loin d'avoir intériorisé tout ce que ça doit et peut signifier dans leur attitude, que ce soit leur attitude publique ou leur attitude intime. Mais je vois que le camp réactionnaire ou ces grands prédateurs utilisent cyniquement les excès parfois de grandes causes citoyennes, les excès dans la lutte contre la corruption, les excès de MeToo, le fait que bien sûr, ici ou là, il peut y avoir des logiques opportunistes dans certaines plaintes, bien sûr, mais qui peut croire que toutes ces femmes qui ont déposé plainte sont toutes des menteuses ou animées par une logique de vendetta? Qui peut croire ça? Personne. Qui peut croire que parce que tous ces hommes qui sont ciblés pour des infractions sexuelles au motif qu'ils le mettent en scène scénarisent une logique de déni, parfois avec le soutien de beaucoup de femmes, seraient tous innocents. Personne ne peut croire ça. Et je ne le crois pas. Et on ne peut pas le croire. Mm-hmm. Mais tu ne peux pas être un militant ou un citoyen engagé si tu n'es pas vigilant sur les propres excès des causes que tu portes. Parce que ce sont ces excès qui sont instrumentalisés en permanence par tes adversaires pour te disqualifier.
Le problème à critiquer les excès des mouvements émancipateurs, c'est Supermanagement qui te dit ça dans le chat à l'instant même, c'est qu'on se retrouve à parler dans le même sens que les réactionnaires, même si ces excès sont minoritaires.
Mais ces excès sont minoritaires, c'est pour ça que je dis excès sur la crête, mais on ne peut pas être pris en otage par le risque de se retrouver dans une pensée qui, à mon avis, d'une façon tout à fait infondée, pourrait être assimilée à une pensée réactionnaire, au risque de perdre justement cette obligation, ce devoir de nuance que l'on doit en permanence respecter. Je pense qu'on est dans une période extrêmement décisive, cruciale, et que dans ces grands combats comme celui de MeToo, on n'aide pas MeToo et on n'aide pas les femmes en étant aveugle et en faisant comme si, ou en fermant les yeux sur le fait que parfois il y a aussi à la marge, bien sûr à la marge, des logiques d'outrance ou des logiques de fanatisme qui nuisent à l'intégrité et à l'universalité de MeToo et à son combat. Donc il faut être vigilant, très attentif dans les éléments de langage pour justement éviter les récupérations sordides des réactionnaires qui n'attendent que ça, je le sais très bien.
Ce qui m'intéresse beaucoup dans ta réponse, c'est que elle montre, comme dans ton livre, que tu crois encore en la justice. Or, peut-être qu'une partie des militantes et des militants MeToo ont fait leur deuil de la justice, oui, en disant, oui, bah, écoutez, les plaintes pour agression sexuelle, pour viol, n'aboutissent pas. Les condamnations, n'en parlons pas. Il faut que justice passe autrement. Et passons sur MeToo, puisqu'il faut qu'on arrive sur la fin de l'émission, sur cette question de la justice, sur laquelle tu ne réponds pas. Je trouve magnifique vraiment tout le bouquin, mais tu as l'air de croire encore en la justice. Comment ? Alors que tu nous racontes, tout bout de champ, combien il y a du cynisme, des arrangements. Qu'est-ce qui te fait encore courir ? Qu'est-ce qui te fait encore croire en la justice ?
Alors d'abord, il y a une phrase, je reviens à Alexei Navalny qu'il avait cité à la fin d'un discours, et je ne le savais pas, mais j'ai découvert ça avec émotion. Alexei avait aimé une citation qui est dans mon livre, qui est une citation d'Edmund Burke, un grand philosophe anglais, oui, et qui dit « Pour que le mal triomphe, il suffit seulement de l'inaction des hommes de bien. Tu évoquais au début de la mélancolie de l'engagement. Je pense que les sources de mélancolie n'ont jamais été aussi puissantes. Les sources de découragement n'ont jamais été aussi fortes. Mais en même temps, paradoxalement, les horreurs du monde et les tragédies qui viennent de temps en temps toquer à la porte de mon bureau, porté par des sans-espoirs, m'oblige, moi, à continuer à être un ambassadeur de l'espoir. Envers et contre tout. Donc, la justice, oui, quand même, envers et contre tout. En dépit de toutes ses imperfections, en dépit de toutes les critiques salutaires essentielles qu'il faut lui faire, ses insuffisances, la prise en compte, évidemment, des infractions sexuelles, quel retard, quel passif, nombre de promesses qui n'ont pas été tenues. La justice, envers et contre tout, ce qui n'empêche pas de rechercher d'autres logiques de dialogue, de médiation. Mais surtout pas la justice privée, surtout pas la vendetta, parce que la justice privée, c'est justement la vendetta. Ça, c'est le cœur nucléaire de l'idéologie réactionnaire, il faut pas l'oublier. La haine des juges, la détestation des juges, c'est la berlusconisation de l'Italie. C'est la complaisance vis-à-vis de la mafia. C'est la complaisance vis-à-vis des réseaux. Il faut pas oublier ça. Si les grandes victoires ont été remportées dans ce pays, dans la lutte contre l'environnement, bien mal acquis, la Cour de cassation contre l'avis du parquet, les grands scandales financiers, l'appel de Genève, et je n'idéalise pas les juges en disant ça, c'est aussi l'action des juges. Il y a les juges qui ont répondu présent sur, par rapport au soulèvement de la terre, qui ont annulé des décisions au tribunal administratif contre l'avis du préfet. C'est pas suffisant, il faut continuer à se battre. Mais la justice, oui, en dépit de toutes les critiques qu'on peut lui faire, toujours et toujours, car ça reste un, ça n'a jamais été autant un contre-pouvoir indispensable. Il y a quelques semaines, une partie de la droite, pas de l'extrême droite, est en train de rêver devant nous de la destruction du Conseil constitutionnel, David. Quand même. Quand même. Donc on est dans une... Si Marine Le Pen vient au pouvoir, son principal adversaire, ça va être les juges.
Ultime question, il est 10h10, après je te libère. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 1h10 ici, ce matin? C'est la question rituelle de poste.
Eh bien, d'abord, pour moi, c'est toujours un plaisir et une fierté de participer à un petit moment comme celui-là, chippé sur l'emploi du temps, qui est un moment de partage et de transmission, et peut-être d'un hymne affectueux et fraternel, comme un antidote contre le découragement. Et c'est pour moi aussi une joie intérieure, parce que répondre à toutes tes questions, parce qu'elles sont très pertinentes et justes, David, c'est aussi pour moi à chaque fois l'occasion de revisiter toute la complexité et la mélancolie de mon engagement.
Merci, maître.
Merci, David.
Merci, maître. Alors, je vais faire une petite pause et moi, je reviendrai avec les gens du chat qui vont te saluer. Merci, merci beaucoup à toi d'être venu, d'avoir pris le temps. Je redonne le titre de ton livre, « Sur le fil de la défense ». William Bourdon, c'est bien toi. Là, on voit, hein, c'est bien lui, vous voyez. C'est... Pourquoi il n'y a pas de lunettes sur la couverture? C'est bizarre.
C'est bizarre. Bah, c'était la caprice de l'éditrice.
Voilà. Et on me rappelle justement que je dois faire la photo pour annoncer l'émission, voilà, la rediffusion, parce que là, on était en direct. D'accord. Je fais une petite pause, les amis, et je vous dis à dans 5 minutes. Merci beaucoup.